Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh. Yidela prepare for Shabbos Kodesh. Joy is in the air for Shabbos Kodesh. Everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh. Everyone with a role to play.
Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver dans un nouveau numéro du commentaire de la paracha de la semaine. Toutes les semaines sur Radio Judaïque à Strasbourg, en compagnie de Harold Avraham Weil, le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin. Monsieur le grand rabbin, bonjour.
Bonjour Jean.
Il fait chaud.
Il fait chaud, il fait beau surtout.
Surtout oui. On va parler quand même de la paracha de la semaine, Be'alotecha, l'allumage des bougies de ce Shabbat, ce soir à 21h11, l'horaire du calendrier, mais on pourra allumer les bougies de Shabbat à partir de 19h50 et la fin du Shabbat demain 22h35. Question qui n'était pas prévue, mais je vais vous la poser. Concernant ces horaires du Shabbat, il y a beaucoup de discussions dans la communauté. Qu'est-ce qu'on suit, qu'est-ce qu'on ne suit pas, qu'est-ce qu'on fait?
On le dit, on le redit, je pense qu'on a dû l'expliquer des dizaines de fois.
On va vous poser la question cette
semaine. Ou des centaines de fois à ce micro. Qu'allez-vous pour l'horaire de l'entrée du Shabbat sur l'heure à laquelle votre communauté, votre synagogue fait rentrer Shabbat? Donc si vous êtes attaché à une communauté qui fait rentrer Shabbat vers 8h, 8h15, vous renseignez par rapport à l'office du vendredi soir et le moment où les Chadodi va être récité, eh bien, il faut prendre cet horaire comme référence pour l'allumage des bougies et ne pas allumer les bougies plus tardivement, puisque l'heure de référence est l'heure à laquelle la communauté fait rentrer Shabbat. Voilà, pour tous les cas particuliers de personnes qui seraient de passage à Strasbourg, ou pour quelqu'un qui, pour des raisons exceptionnelles, doit faire rentrer Shabbat plus tard, vous contactez votre rabbin qui vous expliquera quoi faire, mais je donne la règle générale. Il y a bien sûr un horaire minimal à respecter. On ne peut pas allumer les bougies avant l'horaire du plague.
50.
Tout à fait. C'est l'horaire minimal à partir duquel on peut allumer les bougies, parce qu'avant, eh bien, c'est encore considéré comme le jour, et donc allumer les bougies en plein jour n'aurait absolument aucun sens et aucune utilité. Donc il faut allumer les bougies à partir, en ce qui concerne ce Shabbat, à partir de 19h50 et surtout pas avant, mais ne pas allumer les bougies trop tard. Ce qui veut dire, Jean, de manière très pratique et très concrète, que les créneaux sont relativement courts. C'est pour ça que je demande vraiment aux femmes d'être attentives à ça, celles qui vont allumer les bougies, ou les hommes qui sont concernés par l'allumage des bougies, pour ceux qui sont seuls ou ceux dont la femme est en déplacement, eh bien d'être attentifs au fait que le créneau va être, pour tous nos minyanimes qui font rentrer Shabbat aux alentours de souvent de 20h, 20h15, le créneau d'allumage est relativement court. Il va se situer entre 19h50 et 20h10, 20h15 en fonction des communautés. Et donc il va falloir être vigilant.
Le 21h11, c'est...
Alors le dernier horaire que vous avez cité correspond à l'horaire le plus tardif par rapport, donc 18 minutes avant le coucher du soleil, mais à partir du moment où la communauté à laquelle nous sommes rattachés fait rentrer Shabbat plus tôt, nous avons la possibilité de faire rentrer Shabbat plus tôt, c'est ce qui nous permet d'ailleurs de ne pas dîner le vendredi soir à 23h, de pouvoir se mettre à table en rentrant de la synagogue plus tôt, il faut absolument se caler sur l'horaire, c'est celui-là qui est déterminant, c'est l'horaire auquel la communauté va accepter le Shabbat.
C'est clair. Comme d'habitude, on va souhaiter évidemment au Refouat Shelema aux personnes malades et un Shabbat Shalom particulier aux personnes aînées et aux personnes isolées. On commence comme chaque semaine par le résumé de la paracha, résumé un peu long parce que la paracha est bourrée d'infos.
Alors la paracha, elle, non seulement elle est bourrée d'infos, mais surtout elle aborde effectivement, vous l'avez dit Jean, un nombre de sujets très importants. Alors contrairement à d'autres sidrotes qui vont nous proposer un très très grand nombre de mitzvot, de commandements, on a lu ces dernières semaines des sidrotes, notamment dans le Sefer de Vaïkra, je pense au parashiot de Acharemot, de Kedoshim, de Emor, qui étaient des sidrotes avec beaucoup de mitzvot. Là on va pas forcément avoir beaucoup de mitzvot, mais on va avoir un très grand nombre de thèmes qui vont être abordés, de thèmes qui concernent l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. On va commencer avec un thème très célèbre qui est celui de l'allumage de la menorah, qui est un thème que nous avons déjà abordé, mais que nous allons revoir au tout début de notre sidra. Et d'ailleurs, le nom de notre sidra, Be'alotecha, fait écho justement à cette mitzvah, ce commandement de l'allumage du candélabre donc par le Kohen Gadol. Nous avons, par la suite, nous allons parler de la consécration des Lévim. et nous allons donc aborder tout un tas de thèmes. Pour certains d'entre eux, nous en avons déjà parlé. Il y a le thème du Pessah Sheni, donc le sacrifice pascal de rattrapage, hein, pour ceux qui n'avaient pas pu offrir en temps voulu le 14 Nissan leur sacrifice de Pessah. Nous allons parler des trompettes, les fameuses trompettes en argent que Moshe donc a fabriqué et qui permettait. On n'avait pas de téléphone portable hein, à l'époque, et pas forcément de mégaphone ou de micro, donc c'était les trompettes qui permettaient de rassembler l'ensemble du camp et de donner l'ordre de voyager, qui permettaient de respecter donc un maintien de l'ordre, du seder, au sein du camp d'Israël. Nous allons évoquer brièvement l'histoire de Yitro aussi, hein, Yitro qui a été un personnage très important pas dans la Sefer de Shemot.
Pas longtemps. Mais
oui, on va en parler très brièvement dans la paracha, mais c'est quand même un point très important surtout au vu de l'importance qui a été celle de Yitro dans les conseils qu'il a donné à Moshe et dans la manière dont il a un peu servi de modèle et éclairé aussi le peuple par ses décisions et par ses conseils. Et puis nous allons voir une partie un peu plus sombre de l'histoire du peuple d'Israël. Là, on va vraiment continuer et reprendre en quelque sorte le récit là où il s'était arrêté à la fin du Sefer Shemot, avec l'histoire du peuple d'Israël et ses pérégrinations dans le désert après le don de la Torah, et une histoire qui a été un petit peu en dents de scie, comme vous le savez, Jean, et donc on va voir une partie douloureuse de cette histoire avec les récriminations d'un peuple qui n'a pas toujours été à la hauteur de la confiance qui lui a été accordée par Akadosh Baruch Hu, par Dieu, et c'est malheureusement un schéma qui va se répéter, des récriminations en permanence, et une intervention inéluctable de la part d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, pour calmer un petit peu ses ardeurs mal placées, et qui se solde souvent, malheureusement, par des épidémies, par des morts et par ce schéma très classique avec une teshuva par la suite, une repentance, un regret. Et nous terminerons notre paracha par aussi un événement un peu triste, hein, qui est celui de la lèpre qui va toucher Myriam suite à des paroles déplacées concernant l'épouse de Moshe.
Alors, vous l'avez dit au début de la paracha, on reparle de la menorah. Vous posez la question en disant pourquoi on reparle de la menorah, et en voyant les commentaires, Rashi nous donne une explication, mais il faut revenir un peu sur l'histoire avant, pourquoi on reparle de la menorah, et pourquoi Aaron est intégré dans l'explication de Rashi.
Alors Rashi nous rapporte une explication qui est sans doute, enfin, en tout cas ce Rashi, pour ma part, est sans doute l'un des plus célèbres de la Torah, puisque ce Rashi nous propose, au travers d'un midrash, de faire le lien avec la fin de la sidra précédente, celle de Nassau. La fin de la sidra qui, rappelez-vous, Jean nous parlait des différentes offrandes apportées par les princes des tribus pour participer à l'inauguration du Mishkan, du tabernacle, très grande fête dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est un peu la réconciliation avec Dieu suite à la faute du veau d'or. Et Jean, il y a un grand absent. Il y a un grand absent dans cette inauguration, et pas des moindres, hein, puisque ce grand absent, c'est tout simplement Aaron et sa tribu, les Lévi'im, ont été en quelque sorte évincés de cette inauguration, puisque parmi les 12 princes de tribu, la tribu de Lévi n'est pas représentée. Alors vous allez me dire, mais alors comment on peut avoir 12 tribus? Eh bien, tout simplement parce que la tribu de Yosef, Jean, est divisée en deux tribus, hein, Ephraïm et Ménaché, et donc nous avons en réalité, comme nous le savons, non pas 12, mais 13 tribus. Et Aaron, effectivement, si vous reprenez la longue liste, Jean, que nous avons lue la semaine dernière, à la fin de la parashat Nassau, des sacrifices, des offrandes qui ont été apportées, et vous ne trouverez pas mention du nom d'Aaron. Et donc Aaron s'en est offusqué, ou du moins, en tout cas, comme semble le rapporter Rachid, il n'y avait pas ici d'attitude de rébellion de la part d'Aaron, mais Aaron a été en tout cas profondément, effectivement, attristé par le fait qu'il ne participait pas à cette inauguration. Il s'est senti, comme je l'ai dit, un petit peu mis de côté. Et Dieu va avoir cette très belle réponse en lui disant, mais en tout cas, j'espère te consoler en te disant que je t'ai réservé une mission qui est bien plus noble et bien plus importante que celle qui consiste à apporter une offrande durant la période inaugurale de ce Mishkan. Et cette mission qui va t'incomber tous les jours, et pas simplement une fois au moment de l'inauguration, c'est celle de l'allumage et de l'entretien de la menorah. Et donc il y a deux informations qui sont données à Dieu, et deux formes de consolation pour Aaron. La première, c'est la continuité que Dieu lui propose dans l'action qui est la sienne, c'est-à-dire de se présenter tous les jours pour réaliser une mission qui sera une mission qui va s'inscrire dans le temps Et il y a quelque chose de très réconfortant en sachant qu'on aura une utilité, non pas une fois de manière ponctuelle, mais au quotidien. C'est beaucoup plus gratifiant. Et il y a bien sûr, au travers du symbole que représente l'allumage de la menorah, quelque chose de très très fort. L'allumage de la menorah, c'est diffuser la lumière. Aaron a pour mission de diffuser la lumière, de diffuser la lumière de la Torah, de diffuser la lumière de l'identité du clan Israël au travers du peuple, non seulement pour sa génération, mais même pour les générations suivantes. Et ça, c'est très réconfortant.
On va passer un peu sur les Lévim, parce que sinon on n'aura vraiment pas le temps. On va arriver directement...
C'est très intéressant pourtant,
oui,
les Lévim.
Pourtant, on reviendra l'année prochaine. On va parler d'un thème qui est intéressant aussi. Vous l'avez dit, c'est Pessah Sheni. Quand on lit Pessah Sheni, on a quand même l'impression que, évidemment, pour les gens qui l'ont raté, c'est important, mais également pour nous qui avons fait Pessah, on a l'impression, vous me dites si je me trompe, qu'il y a aussi un message pour les gens qui font Pessah normal. Ce serait quoi le message?
Alors effectivement, ce thème de Pessah Sheni, en réalité, ne concerne pas uniquement ceux qui ont raté Pessah. Bien sûr, ils sont les premiers concernés, puisque c'est eux qui cherchent une alternative à cette mitzvah qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'accomplir. Mais en réalité, cette histoire, elle doit parler à chacune et chacun d'entre nous, dans le fait qu'il n'y a pas de désespoir, et que la Torah, même si on a un grand principe, et c'est un petit peu ce principe que vient bousculer ce passage qui nous parle de Pessah Sheni, ce grand principe, c'est celui de Avar Zmano Batel Korbano. Hein, c'est un grand principe qui nous dit, lorsque le temps s'est écoulé, lorsque le délai est passé, eh bien, Batel Korbano, le sacrifice est annulé. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour chaque chose, et si on arrive trop tard, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière.
Mais
or là, c'est la première fois...
Il y a des jeunes qui sont avancés ou retardés.
Oui, tout à fait. Je ne rentre pas dans ce sujet, je rentre dans... Lorsque les jeunes sont avancés ou retardés, ils l'ont été, ce sont des jeunes qui ont été mis en place, qui ont été institués par nos maîtres et qui décident dans certaines circonstances eux-mêmes de les déplacer. Donc la date auquel le jeune a été déplacé et la date qui a été fixée de facto par nos maîtres. Là, on parle véritablement d'une date fixe, c'est celle du Korban Pessah. Le sacrifice pascal doit être apporté avant Pessah, c'est ce qui lui donne tout son sens. C'est une préparation à la fête de Pessah, parce qu'il était consommé, il était sacrifié donc la veille de Pessah et consommé le soir de Pessah. Donc c'est quelque chose qui donne tout son sens à la fête de Pessah. Consommer le sacrifice de Pessah un mois après la fête de Pessah, a priori n'aurait plus aucun sens. Mais ce qui est intéressant dans toute cette histoire, c'est la réaction du peuple. La première fois que nous voyons une réaction, une manifestation de la part du peuple, non pas pour s'en prendre à Dieu et pour lui reprocher certaines choses, mais au contraire, pour lui dire, mais on est déçus, on a envie, nous aussi, de nous inscrire dans cette mitzvah. Et donc, il y a un élan très, très positif ici de la part du peuple, de chercher à ne pas être coupé du reste du peuple, hein, d'autant plus que, rappelons-le, Jean, les premiers qui étaient concernés, a priori, d'après nos maîtres, par cette situation, et notamment ceux qui étaient en état d'impureté et qui, pour cette raison, n'avaient pas pu apporter le sacrifice pascal, eh bien, l'étaient parce qu'ils étaient en train d'accomplir une autre mitzvah. Donc, on nous dit que c'était les porteurs du cercueil de Yosef. Donc, ils ne veulent pas se sentir lésés par le fait qu'ils étaient eux-mêmes en train d'accomplir une autre mitzvah et qu'on ne leur a pas donné la possibilité, du coup, d'accomplir cette mitzvah du Korban Pessah, du sacrifice pascal qui concerne l'ensemble du peuple. Donc, c'est un message qui s'adresse à chacun d'entre nous dans l'état d'esprit qui doit être le nôtre par rapport à la mitzvah. Être capable de faire preuve d'un enthousiasme et surtout de prendre conscience de la chance que nous avons lorsqu'une mitzvah, lorsqu'un commandement s'offre à nous, de pouvoir l'accomplir. Lorsqu'on voit que des personnes qui pourtant en étaient totalement dispensées, genre par la Torah ne leur reproche pas de ne pas avoir pu apporter ce sacrifice. Lorsqu'on est dispensé de quelque chose parce que tout simplement les circonstances ne nous permettent pas de l'accomplir, on en est totalement dispensé. La Torah ne va pas nous le reprocher. Là, ces personnes-là nous montrent par leur réaction que la mitzvah, lorsqu'elle se présente à nous, eh bien, elle doit prendre tout son sens à nos yeux. Et c'est en cela que cela s'adresse vraiment à chacun d'entre nous. On ne prend pas suffisamment conscience, je pense, de la valeur et l'importance des choses.
J'ai besoin d'être un peu plus concis.
Non, vous ne pouvez pas me demander ça, Jean. C'est pas possible.
Parce que sinon, on ne va pas aborder tous les thèmes. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans cette paracha, c'est en lisant, en fait, le fait que le peuple voyage d'un endroit à l'autre, on a l'impression que il y a une sorte de perte de liberté, c'est-à-dire que le peuple ne bouge pas tout seul, il faut qu'il attende les trompettes, les nuées, etc. C'est un peu une prison.
C'est un PHM, alors vous le voyez comme une privation de liberté.
Si je veux aller à droite et qu'on me dit qu'il faut aller à gauche.
Oui, sauf que là, il y avait une direction bien précise à l'histoire, Jean, et l'objectif, c'était de les amener en Eretz Israël, c'était pas de retourner en Égypte.
On dit qu'il y a certains endroits qui étaient moins accueillants que d'autres, moins gentils ou moins beaux. Alors, il n'y a pas peut-être un problème au niveau de l'Aïmouna envers le peuple.
Ben c'est ça l'Aïmouna, justement. À partir du moment où le peuple a accepté de sortir d'Égypte, où le peuple a accepté ce chemin qui lui a permis de faire une première étape très importante, incontournable, sur le Har-Sinaï, au Mont Sinaï, pour recevoir la Torah, pour recevoir cette constitution, c'était une étape, comme je l'ai dit, incontournable. Le peuple doit maintenant se mettre en route vers Eretz Israël. C'est un chemin qui, pour toutes les raisons que vous connaissez, va prendre plus de temps que prévu, mais donc ça, c'est le peuple en est entièrement responsable. Et pour autant, eh bien, le peuple s'adonne à Dieu, il se met entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, donc il est tout à fait normal que dans ce long périple, dans le désert, eh bien, le peuple suive les instructions de Dieu. Il n'est pas question maintenant d'être sorti d'Égypte pour aller faire n'importe quoi et partir dans tous les sens. Non, le peuple a un objectif,
si
c'est
Dieu,
fort
si
de
Dieu
cette Torah.
Si Dieu a confiance au peuple, il peut donner les itinéraires au homme d'Israël et voilà.
Ah, ce qui vous dérange, c'est que c'était lui qui fixait un petit peu les moments où il devait partir. Eh bien, nous avons Jean, un peuple qui est encore très fragile. Nous l'avons vu avec l'épisode du veau d'or, nous allons le voir avec tous les épisodes de récrimination. Et donc, ce peuple a besoin, durant cette période d'apprentissage, d'être livré totalement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Nous verrons un changement total de gouvernance au moment de l'entrée en Eretz Israël. Et ça va d'ailleurs poser un certain nombre de réflexions. Je pense à un épisode que nous verrons dès la semaine prochaine avec les explorateurs, où là aussi va se poser au niveau de la réflexion de fond la question de savoir est-ce qu'il valait mieux vivre dans le désert, justement entièrement pris en charge par Dieu, ou vivre en Eretz Israël, où là, eh bien, cette justement liberté qui allait être donnée au peuple risquait éventuellement de les conduire dans certaines impasses. Et c'est un petit peu cette réflexion de fond qui a conduit malheureusement les explorateurs à prendre une mauvaise décision. Donc la question que vous posez est une vraie question, c'est une question de fond, mais nous sommes dans une période, encore une fois, de grande fragilité, de grande précarité encore émotionnelle et de maturité pour le peuple d'Israël, et il a besoin, durant cette période-là, d'être un petit peu guidé et pris en charge par Akadosh Baruch Hu, qui lui apprend justement à grandir et à gagner en autonomie.
Dans la paracha, on rapporte, on va dire, l'effort de Moshe pour demander à son beau-père, Yitro, qu'on a appelé d'ailleurs d'un autre nom, de rejoindre le peuple. Qu'est-ce que ça m'avance, moi, à savoir les discussions entre Moshe et son beau-père, et est-ce que le fait que Yitro rejoigne le peuple change beaucoup les choses?
Yitro a passé une grande partie plusieurs mois, un an, avec le peuple. Nous savons quel rôle il a joué. Il y a une paracha et pas n'importe laquelle qui porte son nom, c'est celle du don de la Torah. Et Yitro, on se rappelle, dans justement cette même sidra qui porte son nom, a donné des conseils à Moshe en le voyant un petit peu débordé parfois par certaines situations et en lui proposant donc d'instaurer un système un peu plus pyramidal, on va dire, de direction des affaires juridiques. Et Yitro, là, eh bien, doit faire des choix. Et il doit faire des choix, et Moshe Rabbeinu, justement, qui son gendre qui a énormément d'affection pour lui, mais comme d'ailleurs tout le peuple en avait pour lui, va lui faire remarquer que son choix éventuel, maintenant, de ne pas suivre le peuple jusqu'à l'entrée en Eretz Israël, risquerait de provoquer un grand Chilul Hashem, une grande profanation du nom de Dieu. Et je pense que cet épisode est indispensable parce qu'il nous montre à quel point, eh bien, Yitro jouait un rôle important à la fois dans le peuple, mais également dans le message très négatif qu'il aurait pu faire passer en décidant de rentrer à Midian. Et si vous faites attention à la manière dont on va l'appeler justement dans la Torah à ce moment-là, on va utiliser plusieurs noms. Et parmi les noms que l'on va utiliser, on nous parle de Chovav. Chovav, donc c'est celui qui est cher, pour nous montrer que c'est celui qui était à la fois cher aux yeux de Dieu, mais également celui qui chérissait, qui était Chovev et Torah, qui chérissait la Torah. Donc Yitro n'a rien perdu durant cette année de cet élan de spontanéité, d'amour et de réflexion profonde qui l'a amené à se convertir, à se rapprocher de la Torah.
Je posais la question différemment. Si Chovav ou Yitro n'était pas le beau-père de Moshe, est-ce qu'il y aurait eu la même démarche de Moshe?
Il y aurait sans doute eu la même démarche de Moshe à partir du moment où il aurait joué le même rôle. Alors effectivement, le fait qu'il était en plus le beau-père de Moshe peut-être donne encore plus de poids à sa démarche, mais ce qui est important dans la démarche de Yitro, c'est pas qu'il soit le beau-père de Moshe, mais c'est de là où il vient, quel était le rôle qu'il jouait, quelle était l'importance qu'il avait en tant que prêtre de Midian et prêtre de toute la région, prêtre idolâtre, ouais. Et la démarche qui a été la sienne. Et les dégâts que pourrait causer un retour, encore une fois, même sans rien abandonner à sa conversion, mais le fait de se séparer, de se détacher maintenant du peuple et de ne pas continuer le chemin, aurait pu apparaître aux yeux justement des Midianim comme eh bien, une certaine forme finalement de mise en retrait de la part de Yitro. Et c'est la raison pour laquelle parmi les noms que je rappelais, Yitro est appelé également à Midiani. On nous rappelle que Yitro était le prêtre de Midian, et c'est un argument que Moshe va utiliser pour lui dire, ne serait-ce que pour cette raison, parce que tu as été le prêtre de Midian, parce que tu as eu le courage d'abandonner cette idolâtrie et de faire le choix d'intégrer le clan Israël, eh bien tu ne peux pas revenir maintenant à Midian, parce que revenir à Midian, ça serait aux yeux de toute cette population montrer que tu t'es trompé et qu'en réalité, eh bien, la vérité et l'authenticité n'est pas là où tu es allé la chercher.
Alors, on l'a dit, on va passer, je suis désolé, j'aurais voulu parler plein de thèmes, mais le temps court à grosse vitesse. Je voulais parler d'un thème qui est spécial. Vous l'avez dit dans le résumé, il y a les récriminations du peuple. Alors, les récriminations du peuple, elles sont dirigées contre Moshe, contre Akadosh Baruch Hu, contre Aaron.
Alors là, elles ont l'air d'être en réalité... Elles ont l'air de ne pas être véritablement orientées. Ça va vous surprendre un petit peu mon commentaire. Je fais peut-être écho à la pensée du Osnaïm la Torah qui nous dit que contrairement à ce qu'on peut voir ailleurs, là justement le peuple a l'air d'utiliser une nouvelle technique. Alors certes c'est Rab et Nehachem, ces récriminations sont mauvaises aux yeux de Dieu, mais on ne sait pas très bien vers qui elles sont tournées cette fois-ci. Alors vous allez me dire mais c'est faux, parce qu'on va tout de suite voir l'épisode de la manne où on se plaint de la nourriture, donc a priori là on s'en prend à Dieu puisque c'est Dieu qui donne la manne, et que si la manne n'est plus satisfaisante, c'est qu'il y a une récrimination qui est faite envers Dieu. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Moshe, lui, n'a l'air d'être que le bouc émissaire, et il faut forcément quelqu'un à qui s'adresser, donc on s'adresse à Moshe. Et je ferai aussi remarquer, je ne vais pas partir dans tous les sens, mais c'est intéressant de voir que le peuple, d'un côté, a l'air de manquer de confiance en Dieu et de s'en prendre à Dieu, mais en continuant à accorder un certain crédit à Moshe, parce que si on s'adresse à Moshe pour intervenir et pour prier, c'est que Moshe, lui, a encore un certain crédit, encore un certain pouvoir d'action auprès de Dieu. Donc il y a quelque chose de très intéressant, un peu contradictoire dans la démarche, où d'un côté, on a l'air de s'en prendre à Dieu, mais en disant à Moshe, eh bien écoute, interviens, parce que toi, peut-être que tu peux encore faire quelque chose. Donc le peuple a l'air, finalement, assez embrouillé dans la démarche qui est la sienne. Quoi qu'il en soit, cet épisode est un épisode qui va avoir des conséquences terribles en termes de désunion dans le peuple, en termes d'épidémie, il va y avoir des morts, et on peut imaginer à quel point ces épisodes impactaient psychologiquement le peuple, même lorsque ces épidémies ou ces morts s'arrêtaient, eh bien, le peuple devait reprendre un petit peu le dessus, essayer de se ressaisir, de se rassembler à nouveau. Et ce que nous dit la Torah, et ce que nous livre la Torah, j'ai envie de dire que c'est tout simplement une image, finalement, du peuple, avec ses fragilités, avec parfois ses doutes, bien sûr, avec ses défauts également, et avec parfois, malheureusement, tous les travers dont il est capable de faire preuve. Et c'est aussi la grandeur de la Torah, c'est de nous livrer le texte et la réalité telle qu'elle est. La Torah ne cache pas les problèmes, je crois qu'on l'avait déjà dit la semaine dernière dans la parashat Nasso, au travers de la sota du Nazir. La Torah nous présente les problèmes tels qu'ils sont, tels qu'ils ont existé, non seulement pour nous montrer que la Torah ne triche pas avec la réalité, mais aussi qu'il y a toujours des solutions, et que travers de ces exemples, qui sont parfois des mauvais exemples, que nous-mêmes, même lecteurs que nous sommes du 21e siècle, eh bien, serons à même de pouvoir essayer de ne pas reproduire justement les mêmes erreurs et prendre un petit peu le contre-pied de ces mauvais exemples.
Mais chose différente dans cette paracha, on dit que Dieu était vraiment très en colère. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé avant, le veau d'or, les choses qu'on a pu dire, qu'on a pu faire, Dieu n'était pas en colère. Là, Allez, on se met en colère.
Alors, le 13 en colère ici, sur lequel vous insistez, effectivement, et sur lequel tous nos commentateurs vont s'arrêter, montre qu'il y avait, enfin, qu'il semble y avoir ici, alors c'est un anthropomorphisme, bien sûr, c'est très difficile de comprendre ce que veut dire que Dieu se met en colère ou très en colère. Est-ce que Dieu peut se mettre en colère comme un homme? Est-ce qu'il peut se mettre très en colère? Est-ce qu'il a des sentiments comme nous? Bien sûr, il s'agit ici tout simplement de nous dire que la situation ici est particulière, dans le sens où toute faute, tout écart doit être relevé et bien sûr doit être sanctionné. Et Akadjohu est là justement pour essayer de nous rappeler à l'ordre lorsque ces écarts sont commis, mais que certains peuvent avoir des circonstances atténuantes. Et là, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de circonstances atténuantes. C'est-à-dire que quand l'homme finalement se cache derrière, c'est aussi la malhonnêteté intellectuelle ici qui va être montrée du doigt par Akadosh Baruch Hu, et sans doute que la faute la plus grave que l'on puisse imputer à l'homme est sa malhonnêteté intellectuelle. Si un homme se laisse aller, justement par fragilité ou parce que il a été vraiment totalement submergé ou impuissant devant la faute, on peut lui trouver des circonstances atténuantes. Mais lorsque c'est la malhonnêteté intellectuelle qui va déguiser la faute en quelque chose d'autre, eh bien là, l'homme, malheureusement, n'a plus d'excuses.
On va à l'histoire de Myriam. Alors on va vite aller, on voit raconter l'histoire comme quoi Myriam a donc dit des choses répréhensibles envers Moshe. Et la seule question que beaucoup de commentateurs se pose, c'est de savoir si Moshe a choisi les bonnes choses. Moshe a décidé de prier, c'était la chose qu'il fallait faire à ce moment-là?
Bien sûr, c'est la chose qu'il fallait faire. Déjà, ça nous montre à quel point Moshe, on en doutait, on n'en a véritablement jamais douté, mais ça nous montre à quel point Moshe est un homme de bonté, un homme qui n'a jamais cessé de prier pour l'intérêt des siens. Et même lorsque Moshe s'est retrouvé, et c'est arrivé à de nombreuses reprises, dans des situations délicates dans lesquelles il a été lui-même ou son...
Enfin, ce qu'a dit Myriam, ça... c'était pas non plus extrêmement national, on va dire.
Effectivement, vous avez raison Jean, vous revenez sur les propos qui ont été tenus par Myriam, qui sont des propos très subtils, et ouais. la faute en elle-même est une faute qui semble extrêmement superficielle. Pour autant, je vais vous sortir un grand principe, hein, rien de nouveau sous le soleil, mais vous le savez, Dieu se montre souvent intraitable avec ceux qui doivent être les plus irréprochables, et Myriam faisait partie de ces grands personnages. Je sais que Myriam n'a pas attendu cette paracha pour s'illustrer dans le mauvais sens du terme. Myriam, il ne faut pas oublier que c'est un des plus grands personnages de l'histoire du Klal Israël. Elle est à un niveau peut-être même presque équivalent à celui de Moshe Rabbeinu. C'est d'ailleurs elle qui est à l'origine de la naissance de Moshe. Rappelez-vous que sans l'intervention de Myriam, Moshe Rabbeinu ne serait pas né. C'est elle qui va s'occuper de lui. C'est elle qui va stimuler le peuple. C'est elle qui va chanter la Shira, reprendre la Shira au moment de la traversée de la mer Rouge. Donc Myriam a un rôle extrêmement important. C'est par son mérite que le peuple a pu boire durant ces 40 années avec le puits de Myriam. Et le puits de Myriam, dans les deux sens du terme, c'est bien sûr cette eau qui permet d'étancher sa soif, mais c'est également l'eau de la Torah. Donc Myriam est une image très très forte et un symbole très fort du Klal Israël. Et donc il est normal que lorsque ce symbole soit un petit peu défaillant, eh bien la réponse soit à la hauteur de ce symbole défaillant. Moshe Rabbeinu, lui, reste fidèle à lui-même. C'est-à-dire que Moshe prie, Moshe cherche toujours à arranger les situations et surtout à montrer que Moshe ne se sent pas touché directement parce qu'il aurait pu le blesser. C'est pas l'exemple le plus flagrant, il y a d'autres exemples où Moshe a été attaqué de manière beaucoup plus frontale et pourtant systématiquement. Alors bien sûr, on voit des fois aussi Moshe se mettre en colère, mais Moshe ne refuse jamais de reprendre sa place d'avocat du Klal Israël, de continuer à prier pour lui et de faire en sorte que ce peuple, même lorsqu'il l'a exaspéré, même lorsqu'il l'a poussé dans ses derniers retranchements, eh bien puisse continuer à écrire son histoire. Et ça, c'est toute la force de Moshe Rabbeinu. C'est toute sa grandeur et Moshe Rabbeinu nous prouve une fois de plus au travers de son attitude que c'est à lui que revient cette mission et à lui seulement de pouvoir guider le Klal Israël durant toutes ces années dans le désert.
30 secondes pour la réponse s'il vous plaît. Pourquoi on pose cette question, se dire est-ce qu'il a bien fait de prier, qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre?
Je pense qu'il n'y avait pas d'alternative. Là, Moshe se devait de prier, il se devait.
C'était
c'est la
seule solution.
Oui, la tefila, et ça, peut-être pour répondre une dernière seconde à votre question, peut-être aussi montrer l'impact de la tefila. La tefila, aujourd'hui, la prière est quelque chose, est une arme qui est souvent sous-estimée, qui n'est souvent pas appréciée à sa juste valeur. Et nous qui sommes amenés maintenant à prier, surtout dans une génération dans laquelle nous ne connaissons pas les sacrifices, nous ne connaissons pas le travail dans le temple, eh bien, nous savons que la prière a pris une part extrêmement importante dans notre rituel et dans notre existence. Et je crois que cette prière, et surtout face à la maladie, c'est important, et je pense, et c'est peut-être aussi une manière de conclure cette émission, même si c'est sur une note un petit peu sensible et avec un petit peu d'émotion, eh bien, de penser, et vous le faites tout le temps en début d'émission, Jean, à toutes nos personnes qui sont malades. Et on voit, Jean, à quel point même des personnes qui sont éloignées de toute forme de pratique religieuse, eh bien, lorsqu'elles sont confrontées à la maladie, que ce soit le malade lui-même ou son entourage ou sa famille, eh bien, se retourne vers la prière. Et moi, j'ai vu encore ces dernières semaines, véritablement, des gens prier, mais avec une sincérité, avec une émotion. Je les ai vus pleurer, je les ai vus vraiment se sentir concernés et se sentir vraiment à la hauteur, finalement, de ce que cette tefila, de ce que ces mots que nous pourrons sortir et prononcer de tout notre cœur, eh bien, peuvent provoquer. Et donc, rappeler l'importance de cette tefila, mais pas simplement dans les moments de détresse, mais même lorsque tout va bien, même lorsqu'au quotidien, qu'on a l'impression de ne pas véritablement en avoir besoin de cette prière, eh bien, rappeler l'importance de pouvoir s'adresser à Dieu avec sincérité, avec honnêteté, avec simplicité. C'est fondamental, et c'est aussi peut-être cela le sens de cette prière, qui est d'ailleurs très courte, mais très puissante. Très puissante.
Merci monsieur le grand rabbin, rendez-vous la semaine prochaine si Dieu veut. Merci à Lucas pour la réalisation technique. À vous tous et à vous toutes, un très bon Shabbat.
Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, you did not prepare for Shabbos Kodesh.